Every day. Anywhere. Anytime. The Digital Gasbook Channel. Ebenezer International. Your station.
Amis à l'écoute, je vous dis bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Flash sur la Bible. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour et merci de faire votre la radio Ebenezer International. C'est un heureux plaisir que de vous retrouver pour passer ensemble, en votre compagnie, ce moment d'édification spirituelle. Si c'est pour la première fois que vous nous écoutez, sachez que nous sommes une radio chrétienne au service des églises, des pasteurs, des évangélistes, des artistes et des groupes musicaux, des associations socio-humanitaires, ainsi que des professionnels qui souhaiteraient bien nous faire découvrir leur parcours. Nous avons divers programmes qui peuvent vous intéresser. Quand le temps vous le permettra, soyez libre de faire un tour sur notre site pour en savoir plus. Nous serions très heureux de recevoir vos réactions, vos suggestions, concernant ces programmes mis à votre disposition. Dans cette nouvelle édition de Flash sur la Bible, nous aurons l'occasion d'étudier ensemble aujourd'hui deux nouveaux livres des Saintes Écritures, Ézéchiel et Daniel. Je vous rappelle que Flash sur la Bible est une courtoisie de Bible ouverte, un site de l'association Paroles Certaines, soutenu par l'Association des Églises Action Biblique de Suisse. À la fin de l'émission, nous vous communiquerons le lien qui vous permettra de les contacter. Dear listeners and friends, thank you for joining us today at the Digital Gospel Channel, the Radio Ebenezer International. I am Frank Louis Steele, and I will be your host as you listen to Christian broadcast designed to feed your spirit. I pray you will be encouraged and that you will grow in your faith in Jesus Christ, our Savior. Don't forget to tell all your friends and relatives to join us at www.frankradio.podomatic.com. www.frankradio.podomatic.com. When you will be on this site, we'll find a link will allow you to visit our new website. Buongiorno e grazie di scegliere questa radio Ebenezer International. Sono felice di ritrovarvi per passare insieme questo momento di costruzione spirituale. Nonostante il fatto che il programma sia in francese, io ho la certezza che vi soddisfarà. E io tengo che sia interessante, soprattutto per quelli cui piacerebbe scoprire un poco più il mondo francofono. Sono Frank Louis Steele, il vostro amico pastore. Juste avant d'accueillir l'équipe de Bible ouverte, nous vous proposons avec beaucoup de plaisir ce premier titre que va nous interpréter l'artiste chrétien Léa Vincent. Chant intitulé Adonai. Bonne écoute à toutes et à tous.
Vous écoutez Flash sur la Bible. Sur la Bible.
Pour t'offrir mon amour, oh Seigneur.
Écoutez Flash sur la Bible. Après ce beau chant de l'artiste Léa Vincent, c'est maintenant le moment de céder l'antenne à nos amis de Bible ouverte pour la première partie de l'émission.
Le prophète Ézéchiel.
Par l'abondance de leur matière, les livres d'Ésaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel occupent une place prépondérante parmi les prophètes de l'Ancien Testament. Cependant, leurs auteurs ont vécu dans des circonstances fort différentes. Ésaïe a exercé son ministère à Jérusalem plus d'un siècle avant la captivité. Jérémie a participé aux événements de la prise de Jérusalem et a achevé sa prophétie en Égypte. Ézéchiel, quant à lui, a été le messager de l'Éternel auprès des captifs de Juda, sur les rives du Kébar, une rivière de Mésopotamie, à plus de 1000 kilomètres de sa patrie. Mais les écrits d'Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel se complètent, forme même une sorte de trilogie, chaque livre mettant l'accent sur l'une des personnes de la Trinité divine. Ainsi, Ésaïe, dont le nom veut dire « Salut de l'Éternel », annonce surtout la venue et le ministère de Dieu le Fils. Il fait de si fréquentes allusions à Jésus-Christ qu'on l'a surnommé « le prophète évangélique ». Jérémie, qui signifie « l'Éternel est élevé », magnifie constamment la personne de Dieu le Père, le Tout-Puissant, qui agit en jugement sur les coupables et en grâce sur ceux qui se repentent. Pour sa part, Ézéchiel, littéralement « l'Éternel fortifiera », fait ressortir l'œuvre de Dieu le Saint-Esprit. Il mentionne 17 fois l'Esprit de Dieu en montrant l'efficacité de son action pour renverser les forces ennemies et restaurer Israël. Ézéchiel était vraisemblablement très jeune lorsqu'il a subi la déportation. Il faisait partie des captifs emmenés par le roi Nebuchadnezzar autour de l'an 605 avant Jésus-Christ. Il était donc en Babylonie lors de la destruction de Jérusalem en 586. Et il a pu considérer cet événement avec une distance que n'avaient pas ceux qui étaient au centre du drame. Nous l'avons dit, Ézéchiel était avant tout le prophète du Saint-Esprit. Aussi, l'Esprit de Dieu l'a-t-il travaillé jusqu'à ce qu'il exhorte les fils de la captivité de la part de l'Éternel.
L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais, irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance.
Ézéchiel 3, 14. C'est le Saint-Esprit qui l'a transporté en esprit des rives du Kébar jusqu'à Jérusalem, où il a vu la gloire de Dieu s'éloigner du temple. Chapitre 8, verset 3. Et c'est encore le même Saint-Esprit qui l'a ramené en Mésopotamie pour qu'il explique aux Israélites de la captivité les raisons de l'imminente destruction de la ville sainte. Chapitre 11, verset 24. Châtiment, destruction. Mais ce ne sera pas le point final dans le plan de Dieu. Dans une vision, Ézéchiel voit une vallée remplie d'ossements desséchés qui ressuscite sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Une fois de plus, le prophète est associé à l'œuvre de l'Esprit et il prophétise ce qui s'accomplira 25 siècles après sa mort, la résurrection nationale d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes les témoins de cet événement que la Bible présente comme le prélude du règne messianique de Jésus-Christ sur la terre. Deuxième caractéristique du ministère d'Ézéchiel. Il a vu à plusieurs reprises la gloire de l'Éternel. On peut en cela le comparer à l'apôtre Jean, prisonnier sur l'île de Patmos, qui reçut lui aussi révélation de la gloire future de Jésus-Christ. Ézéchiel, également captif, se trouvait dans des conditions propices pour que le Tout-Puissant lui accorde la vision d'une gloire divine plus redoutable que le déchaînement des éléments, une gloire qui remplit le ciel et la terre. Chapitre 1er. Puis, c'est la révélation de la gloire du Dieu d'Israël qui se retire du sanctuaire de Jérusalem à cause des profanations idolâtres renouvelées en plein temple. Chapitre 8 à 11. Mais cette même gloire divine reviendra s'installer à Jérusalem lors du futur règne messianique. Elle habitera alors dans un nouveau sanctuaire, chapitre 40 à 48, dans la ville que l'on appellera « L'Éternel est ici », chapitre 48, verset 35. Ézéchiel, prophète de l'Esprit. Ézéchiel, prophète de la gloire divine, avons-nous dit. Mais quel contraste entre cette gloire et la situation quotidienne du prophète vivant au sein d'un peuple apostat et corrompu, car la tribu de Juda a renié son Dieu et oublié sa parole. Et ceci nous conduit à la troisième caractéristique de ce serviteur de Dieu, et elle est de beaucoup la plus importante. Ézéchiel, prophète rejeté. Né dans une famille de sacrificateurs, Ézéchiel a conservé son office en Babylonie. Pour lui, l'important n'est pas le temple qu'il a laissé derrière lui et ne reverra plus, mais le Dieu pour qui ce temple avait été dressé. Il demeure serviteur de Dieu alors que plus personne autour de lui ne se soucie de Dieu. Ézéchiel connaît la solitude, les moqueries, le rejet de la part de ceux qui auraient dû écouter son message. Tout semble vain. Même cet appel pressant de Dieu aux habitants de Jérusalem, appel qui reste sans réponse.
Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point.
Ézéchiel 22, 30. Le prophète n'est pas à Jérusalem, mais en captivité. Il n'y a personne sur place pour se tenir à la brèche en faveur du pays. Alors, à distance, Ézéchiel veut être cet homme. Sa tâche n'est pas facile. Dès le début de son ministère, Dieu ne lui avait-il pas dit
« Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter.
Ézéchiel 3, 4 à 7. Est-il aisé de prêcher à des gens qui ont décidé de ne pas écouter? Mais Ézéchiel ne peut se dérober à sa mission, car Dieu insiste.
Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. »
Ézéchiel 3, 10 à 11. Et plus loin,
« Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. »
Ézéchiel 3, 17 et 33, 7. L'expression « Fils de l'homme » apparaît 91 fois dans le livre d'Ézéchiel. Pourquoi Dieu s'adresse-t-il toujours à Ézéchiel par cette appellation? Tout est voulu dans l'Écriture, et la désignation « Fils de l'homme » ne fait que souligner le trait principal de la mission d'Ézéchiel. « Fils de l'homme », c'est un titre que Jésus s'est donné lui-même dans les Évangiles. Il y apparaît 78 fois, et chaque fois, il montre à quel point Jésus-Christ, Sauveur des hommes, est rejeté, méprisé, haï par les hommes. Deux exemples.
Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête.
Matthieu 8, 20.
Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir.
Matthieu 17, 22 à 23. Ézéchiel porte l'opprobre. Il est rejeté des hommes, il connaît la souffrance, un peu comme Jésus-Christ que les Juifs ont exclu et rejeté. Ainsi, le chemin parcouru par le prophète est comparable à celui que le Fils de l'homme foulera jusqu'à la croix 6 siècles plus tard. Ézéchiel emploie aussi la forme de prédication que le Seigneur a utilisée lorsqu'il s'est adressé aux foules de Palestine. Ce langage symbolique des paraboles qui appartient au temps de désobéissance à Dieu et de mépris de sa parole. Ce langage que l'on retrouve aussi tout à la fin de la Bible dans l'Apocalypse. Peut-être qu'une première lecture du livre d'Ézéchiel vous a laissé une impression de complexité. Mais donnez-vous la peine de reprendre le texte dès le début. D'abord, Jérusalem est représentée par une brique, ses ressortissants par des cheveux, et l'envahisseur par un rasoir, chapitres 4 et 5. La déportation est préfigurée par le déménagement du prophète, chapitre 12. Puis, un cep stérile démontre combien le peuple d'Israël déchu de sa vocation est devenu inutile, chapitre 15. Israël est ensuite comparé à un enfant abandonné et recueilli, chapitre 16. Tandis que les peuples usurpateurs sont représentés par des aigles qui arrachent les rameaux d'un cèdre, chapitre 17. Et les images se succèdent, fort variées. Les raisins verts, chapitre 18. Le jeune lion, chapitre 19. La chaudière bouillante, chapitre 24. Le troupeau, chapitre 34. Les ossements desséchés, chapitre 37. Dans les 24 premiers chapitres, Ézéchiel énumère les jugements qu'Israël mérite. Dans les 24 derniers chapitres, il montre des événements à caractère international puis mondial, châtiment des peuples d'alentour, rétablissement d'Israël face à ses nations, enfin, règne universel du Messie. Son rôle de sentinelle n'a pas empêché Ézéchiel de regarder au-delà du visible et des circonstances contemporaines à cet avenir où Dieu rappellera la nation rebelle et la ramènera à lui.
Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances.
Ézéchiel 36, 26 à 27. Un jour, bientôt, Israël recevra un cœur nouveau. L'Esprit de Dieu, que le prophète Zacharie présentera comme esprit de grâce et de supplication, sera répandu sur le peuple juif. Il reconnaîtra son péché et sa culpabilité dans le crime de la crucifixion de Jésus-Christ. Dieu reprendra alors ses relations d'amour avec lui, et lorsqu'il se sera repenti, le Messie reviendra ici-bas. Il habitera à Jérusalem et instaurera une paix universelle parmi les nations, enfin délivré de l'injustice sociale, des guerres et des menaces nucléaires. Alors, les promesses messianiques se réaliseront, et en particulier le dernier mot du livre d'Ézéchiel qui proclame, au sujet de Jérusalem,
« Le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ».
Et lorsque le Fils de Dieu règnera ici-bas à Jérusalem, sa gloire rayonnera de Jérusalem vers le monde entier. Ne valait-il pas la peine qu'Ézéchiel remplisse sa vocation de sentinelle et de prophète rejeté, de fils de l'homme abandonné par tous? Il a été témoin de Dieu, prophète de Christ et messager du Saint-Esprit. Il a annoncé la justice, la sainteté et la gloire de Dieu. Il a proclamé des siècles à l'avance le salut, le retour et le règne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il a témoigné de l'action, de la vie et de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi Dieu ne vous appellerait-il pas à devenir à votre tour dès aujourd'hui témoin de Dieu, sentinelle de Christ et messager du Saint-Esprit? Oh, que le Seigneur suscite à nouveau des hommes et des femmes, oui, des combattants de la trempe d'Ézéchiel.
Vous écoutez Flash sur la Bible. Avant d'aborder la deuxième partie de l'émission autour du livre du prophète Daniel, nous vous proposons ce chant de Denis et d'Isabelle Haye, « Auprès de toi ».
Toi.
Vous écoutez Flash sur la Bible. Où trouvons maintenant nos amis de Bible ouverte pour la deuxième partie de l'émission?
Le prophète Daniel. La première page du livre de Daniel nous reporte à l'an 605 avant Jésus-Christ. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis que les 10 tribus du royaume d'Israël ont été déportées en captivité vers l'Assyrie. C'est maintenant au tour des ressortissants de Juda de connaître la guerre et la menace de l'exil. Jérusalem ne sera détruite par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qu'en 586. Mais maintenant déjà, son armée campe aux portes de la ville. Il se contente alors d'humilier Juda en emmenant à Babylone un certain nombre de captifs, choisis parmi les familles nobles, et en particulier quelques jeunes gens qu'il veut attacher à son service dans son palais. Nous lisons Daniel 1, 3 à 6.
Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria.
Daniel et ses compagnons étaient donc les victimes innocentes de bouleversements internationaux. Mais ils ne se sont pas découragés, et si les circonstances qui leur étaient imposées allaient à l'encontre de leurs aspirations nationales ou religieuses, leur foi en l'Éternel, le Dieu d'Israël, est demeurée intacte. Et voilà pourquoi, dès son arrivée à Babylone, Daniel a refusé d'épouser les pratiques idolâtres des Chaldéens.
Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller.
Daniel 1, 8. Ces mets et ce vin avaient sans doute été offerts aux divinités païennes avant qu'on les apporte sur la table. Daniel et ses compagnons n'ont donc pas seulement refusé un régime alimentaire, mais le culte mythologique et les festivités idolâtres de la cour impériale. Or, cette attitude d'intégrité a honoré Dieu qui s'est plu à agir en faveur de ses enfants.
Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens qui étaient dans tout son royaume.
Daniel 1, 17 et 20. Et c'est ainsi que Nebuchadnezzar a fait prospérer Daniel et ses compagnons, leur confiant d'importantes responsabilités à la cour. Daniel a même accédé aux fonctions de premier ministre, Daniel 2, 48, poste qu'il a conservé longtemps. Et après une période d'éviction sous le roi Belshazzar, il a retrouvé cet office qu'il a occupé à nouveau sous la domination perse pendant les règnes de Darius et de Cyrus, Daniel 6, 3 et 28. C'est comme si, en cette période de disgrâce d'Israël, Dieu avait voulu qu'un témoignage soit rendu à son nom par une personnalité de premier plan placée à la tête des gouvernements babyloniens et perses. Nebuchadnezzar, Darius et Cyrus ont établi Daniel au-dessus des chefs de la province de Babylone et surtout le royaume. Mais c'était avant tout Dieu qui l'avait placé là et l'a employé comme son messager auprès des dignitaires de l'époque comme auprès des populations païennes. Il fallait que chacun sache que le Tout-Puissant contrôle les événements internationaux et qu'en dernier ressort, il en décide le cours. Écoutons ce que Nebuchadnezzar lui-même a dû reconnaître à ce sujet.
Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?»
Daniel 4, 35. Bien qu'histoire et prophétie aillent de pair tout au long du livre de Daniel, on peut diviser celui-ci en 2 sections, l'une surtout historique, l'autre surtout prophétique. Les chapitres 1 à 6 racontent des faits survenus dans la région de Babylone, récit saisissant où le prophète dépend de son Dieu, chapitre 1er, interprète les songes du roi, chapitres 2 et 4, et surtout transmet le verdict du Tout-Puissant à Nebuchadnezzar et plus tard, chapitre 5, à Belshazzar. Mais tout serviteur de l'Éternel doit être prêt à exposer sa vie pour témoigner de sa foi. C'est le cas des trois compagnons de Daniel qui, parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue d'or élevée par Nebuchadnezzar, sont jetés dans la fournaise ardente, puis miraculeusement délivrés. Chapitre 3. C'est aussi l'expérience de Daniel, dénoncée par des hommes jaloux, qui oblige le roi Darius à le jeter dans la fosse aux lions. Chapitre 6. Mais là encore, Dieu prend soin de son témoin qui, après une nuit passée dans la fosse aux lions, peut affirmer
« Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. »
Daniel 6, 22. Certains commentateurs ont désigné la deuxième section du livre de Daniel comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament, tant elle rappelle le dernier livre du Nouveau Testament, par son caractère, comme par le langage symbolique employé, et surtout par les descriptions d'événements lointains aboutissant au triomphe final de Christ. Du reste, il est difficile de saisir le sens des prophéties de Daniel sans le complément inspiré de l'Apocalypse de Jean. Et les révélations accordées à Daniel sont d'un grand secours pour interpréter l'Apocalypse. Daniel 7 reprend le grand thème que le prophète a amorcé au chapitre 2 lorsqu'il a raconté et interprété le premier songe de Nebuchadnezzar. Sous les traits d'une statue, Dieu avait alors annoncé au monarque la succession des quatre grands empires de l'Antiquité qui ont dominé 10 siècles d'histoire. Tête d'or, poitrine d'argent, hanche d'airain, jambes de fer et d'argile. Ces quatre matériaux préfigurant respectivement les empires babyloniens, perses, grecs et romains. Et au chapitre 7, Dieu confirme cette révélation à Daniel, ces quatre empires apparaissant symboliquement sous la forme de quatre animaux, un lion, un ours, un léopard et un monstre terrifiant. Ajoutons que, tant au chapitre 2 qu'au chapitre 7, Dieu montre que les ambitions démesurées des puissances politiques convergeront vers une suprême révolte. Mais alors, le Tout-Puissant interviendra, frappant les peuples de son jugement et instaurant le règne messianique de son Fils sur les nations. Ce sujet est abondamment repris dans les chapitres 8 à 12, où Dieu révèle à Daniel les circonstances terribles de la domination de l'Antéchrist, ce super dictateur qui organisera demain sur le plan mondial le dernier soulèvement de l'humanité contre le Dieu suprême. Et Dieu permet, en quelque sorte, la préfiguration de cet événement important, ou si vous préférez sa répétition générale, mais à une échelle réduite, lorsqu'au deuxième siècle avant l'ère chrétienne, Antiochus Épiphane, roi de Syrie, persécute les Juifs et profane leur temple. Abomination de la désolation. C'est ainsi que Daniel désigne ce sacrilège 300 ans avant sa réalisation. Et Jésus-Christ reprendra ce terme pour décrire les actes blasphématoires de l'Antéchrist.
C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention.
Matthieu 24, 15. Ce passage trouvera son plein accomplissement lorsque l'Antéchrist,
qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Toutes les prophéties de Daniel, et surtout celles qui sont à longue portée, se dessinent sur l'arrière-fond d'événements historiques qui se sont déroulés entre le 5e et le 2e siècle avant l'ère chrétienne. Daniel décrit les guerres qui ont dressé la Syrie contre l'Égypte et toutes les vexations que les armées d'occupation ont fait subir aux Juifs de Palestine. Dans les chapitres 8, 9 et 11, le prophète annonce l'enchaînement de ces événements avec tant de précision que certains théologiens n'ont pas voulu croire que ces chapitres ont été rédigés 3 siècles avant leur accomplissement et ont même refusé qu'ils soient de la plume de Daniel, tout simplement parce qu'ils nient le caractère surnaturel de l'inspiration verbale des Écritures. Mais leurs arguments ne sont guère convaincants, d'autant plus que Daniel a pris soin de dater ses prophéties et de les intégrer dans leur contexte historique. Si Daniel a annoncé les empires de l'Antiquité et même l'Antéchrist, il a aussi parlé de Christ. Il est même le seul prophète qui ait annoncé avec précision l'année de la mort du Messie. Il a vu les événements de l'avenir se dérouler en 70 semaines d'années, chapitre 9, dont 69 appartiennent pour nous déjà au passé, et seule la 70e est encore à venir. Ces 69 semaines d'années correspondent à 483 ans, qui, partant de la proclamation de l'empereur perse Artaxerxès ordonnant la reconstruction de Jérusalem, aboutissent à l'an 29 de notre ère, année probable de la crucifixion de Christ. Daniel était serviteur de Dieu à l'endroit où Dieu l'avait placé comme témoin, et il transmettait les paroles du Seigneur à ceux à qui elles étaient destinées. C'est au point que les messages décrivant les bouleversements internationaux ont été primitivement rédigés en araméen, la langue principale de l'Empire de Babylone à l'époque, chapitre 2 à 7, alors que les prophéties regardant plus particulièrement l'avenir du peuple juif ont été écrites en hébreu, chapitre 1 et chapitre 8 à 12. Chrétiens qui êtes à l'écoute, en autant de la fin, Dieu a besoin de votre témoignage là où vous êtes et dans un langage que les autres comprennent, c'est-à-dire dans une vie chrétienne authentiquement vécue. Suivez en cela les traces de Daniel. Sachez à votre tour refuser les souillures du monde et agir fidèlement selon la parole de Dieu, proclamant bien haut le triomphe final de Jésus-Christ sur l'Antéchrist. Seriez-vous sur le point de céder au découragement, aux tentations subtiles de l'ennemi des âmes, à l'esprit du monde et aux fausses persuasions du séducteur? Seriez-vous en train de vous laisser neutraliser par un genre de léthargie spirituelle? Ressaisissez-vous et relevez-vous. Dieu a dit à Daniel,
« Tiens-toi debout à la place où tu es. »
Daniel 10, 11. Et le dernier mot qu'il a adressé à son fidèle serviteur est aussi de nature à nous encourager.
Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours.
Daniel 12, 13. Que Dieu nous fasse la grâce d'être debout. C'était là la conclusion de l'avertissement prophétique du Seigneur Jésus à ses disciples sur le mont des Oliviers. Luc 21, 36.
Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme.
Que Dieu vous bénisse.
Vous écoutez Flash sur la Bible, notre dernière pause musicale avec le groupe Les Jordiers, dans un chant intitulé « Pour toi je vis ». Je vous souhaite une agréable audition.
Ma faiblesse, je t'ai appelé et tu m'as répondu sans attendre, Seigneur.
Mais oui, toute ta confiance.
La force que je n'ai pas se trouve en toi et cette ferme assurance aussi.
J'abandonne ma vie, j'abandonne mon cœur, et pour toi je vis, je vis, je vis.
Mais en lui toute ta confiance. Oh,
j'abandonne ma vie, j'abandonne mon cœur, et pour toi je vis.
J'abandonne ma vie, quoi qu'il en soit, je renonce à moi.
Mais en lui, toute ta
défendrai toute ma vie s'il le faut. Un seul conseil, mets en lui toute ta confiance. Oh,
j'abandonne ma vie, j'abandonne mon cœur.
Oui,
toi je vis, je vis,
je vis. Yeah.
Mets en lui toute ta confiance.
J'abandonne ma vie, j'abandonne mon cœur. Et pour toi je
mets en lui toute ta confiance. Va.
Flash, flash sur la Bible. Sur la Bible. Ainsi s'achève, chers amis à l'écoute, cette nouvelle édition de Flash sur la Bible, qui nous a permis d'étudier ensemble ces deux nouveaux livres des Saintes Écritures, les livres des prophètes Ézéchiel et Daniel. C'était un plaisir de passer en votre compagnie ces précieuses minutes autour de la parole de Dieu, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition pour voir ensemble deux autres livres. Avant de partir, j'aimerais vous rappeler que Bible Ouverte est un site de l'association Parole Certaine, soutenu par l'Association des Églises Action Biblique de Suisse. Pour en savoir plus, consultez le site internet www.bible-ouverte.ch. Je répète, www.bible-ouverte.ch. Je remercie sincèrement l'association Parole Certaine pour sa fraternelle collaboration avec cette radio. Je remercie également tous les artistes qui ont apporté leur contribution à ce programme. Commençons par Léa Vincent, le groupe Les Jordiers, ainsi que Denis et Isabelle Aïe, Denisa. Et à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices qui étaient branchés depuis le début de l'émission jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie de votre intérêt pour ce ministère et prie pour que le Seigneur continue d'utiliser nos différentes émissions pour vous aider à mieux le connaître. C'était pour vous servir, au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur Franck Doristil, qui vous dit une fois de plus, merci, que le Seigneur vous bénisse et au revoir. C'était Flash sur la Bible, sur la radio chrétienne Ebenezer International. Digital Gospel Channel, your station.
Sous la terre.